Bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditrices, chers auditeurs. Nous sommes en direct sur Radio Esperanza, la radio qui est logée au sein du village des possibles. Et ce, pour une deuxième émission, en ce samedi. Samedi qui est, contre toute attente, ensoleillé à fond. Qui dit soleil dit motivation, qui dit motivation dit lutte. Et pour cette première partie d'émission, nous recevons deux associations qui justement luttent aussi. Elle pour la consommation et la surconsommation, l'une pour la pub et par la pub, contre. Et la deuxième pour les scénarios de sobriété énergétique. La première, j'ai nommé les villes sans pub. Je dis les villes sans pub parce qu'on a l'habitude d'entendre un Liège sans pub ou Bruxelles sans pub. Ils sont là, tous les deux. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Donc là, tu fais partie de Liège sans pub.
Oui, c'est ça, exactement.
Exactement. Tu n'es pas venue toute seule à notre émission.
Non, du coup, je suis avec Jonas et Xavier, et on représente le collectif des villes sans pub. Donc, comme vous le disiez, Namur sans pub, Liège sans pub et Bruxelles sans pub.
Bienvenue dans notre
Merci
émission.
Merci beaucoup.
Et je me tourne à ma droite maintenant. Nous recevons Négawatt aujourd'hui dans cette première partie.
Bonjour
Négawatt. Bonjour Inès.
Bonjour.
Inès, qui est cofondatrice de Négawatt Belgium.
Exactement.
Exactement. Une toute nouvelle ASBL.
Si oui, tout à fait. Elle vit depuis environ un an d'un point de vue administratif.
Et Martin qui l'accompagne aujourd'hui. Bonjour Martin.
Bonjour.
Toi, tu es bénévole chez Négawatt aussi.
Oui, depuis quelques mois, là, depuis le début.
En tout cas, bienvenue ici dans notre émission à Radio Esperanza. Mais je propose un petit tour de table pour commencer. Parlez-nous en quelques mots, deux, trois phrases assez simples pour un peu poser le décor. Par exemple, les villes sans pub. Qui êtes-vous ?
Donc nous, on est un collectif donc qui vise à fournir de l'information à la population concernant la publicité. Notamment le fait que elle prend pas mal de place dans l'espace public, et nous c'est quelque chose qui nous interpelle quand même, parce que le nombre de publicités en ville a tendance à augmenter et jamais à diminuer. Enfin, on voit de plus en plus d'espaces publicitaires, notamment dans les vitrines de magasins. Maintenant, il y a des écrans directement de télévision qui vous appellent votre regard immédiatement, et on questionne aussi le fait que c'est une énorme consommation énergétique, alors que justement on aurait tendance à penser et à vouloir qu'on diminue nos consommations énergétiques de tout type. Donc c'est interpellant, donc on a tendance à vouloir mettre l'accent sur ça, okay, via l'information, donc majoritairement.
Super, merci beaucoup.
Et peut-être pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, il faut savoir que les panneaux énergétiques consomment énormément, c'est l'équivalent de la consommation de 4,5 ménages, rien qu'un panneau de type abribus en numérique.
Par mois, par an,
Disons que si on prend une période d'une semaine,
C'est kiff, quoi.
C'est kiff, oui. Un mois, un an.
Oui, c'est ça. Voilà. Peu importe la temporalité. Ouais. Super. Négawatt, pourriez-vous vous présenter en une phrase ?
Tout à fait. Donc, on a une toute petite association actuellement. On a pour objet d'élaborer des scénarios de transition énergétique. Et par la suite de les mettre en débat, donc de les vulgariser, d'aller vers la population, de pouvoir animer des ateliers autour de ces scénarios, pouvoir débattre des grandes questions, des grandes décisions à prendre pour arriver à un 2050 zéro carbone, voilà.
Et sans vouloir spoiler, vous croyez que c'est possible ?
Ce qui est super motivant, en tout cas, justement dans la construction de ces scénarios, c'est oui, c'est possible. Mais oui, il faut prendre des décisions et il faut les prendre tout de suite.
Très bien. Merci pour cette petite introduction vite fait, bien fait. On va revenir sur plein de sujets parce que je pense qu'il y a de la matière dans notre petite malisette qu'on va essayer de décortiquer tous ensemble. Je vous propose un petit interlude musical.
Maintenant j'ai compris.
Tu as compris?
Maintenant j'ai compris.
Tu comprends pas?
Maintenant j'ai compris.
T'as compris?
Maintenant j'ai compris.
Hey.
Quand je dis non, c'est non. Mais quand je dis oui, c'est oui. Tu dois me laisser tranquille. Si je n'ai pas envie de toi,
j'ai compris.
T'as compris.
Maintenant j'ai compris.
Tu comprends pas.
Maintenant j'ai compris.
T'as compris.
Maintenant j'ai compris.
Radio Esperanza.
On vient d'écouter le titre « J'ai compris » de Nana Benz du Togo, ce groupe qui est passé aujourd'hui sur la scène du Jardin à 14h. Pour mener un peu ce débat, on a François-Philippe qui est à côté de moi et Claire qui est là. Peut-être pour commencer un peu les villes sans pub, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos moyens d'action pour lutter contre l'invasion de l'espace visuel et lesquels vous mettez en priorité?
Donc, comme Emmanuel l'a dit, nous on essaye essentiellement de diffuser l'anti-pub et de visibiliser des actions de citoyens et de citoyennes qui à un moment auraient marre de voir une publicité violente qui véhicule des stéréotypes au coin de leur rue. Et donc nous ce qu'on fait c'est on diffuse ces moyens d'action là, essentiellement à travers les réseaux sociaux, et on promeut, on défend l'usage de l'anti-pub comme un moyen d'action. Et donc cette action elle se fait par de la sensibilisation, de l'information, mais aussi par des formations. On explique aux gens comment on peut se défendre contre la publicité, et puis on mène des actions plus légales. Liège sans pub a pas mal mené des interpellations citoyennes par le passé au collège communal, et là Bruxelles sans pub on a lancé une pétition tout récemment, la semaine passée, au Parlement bruxellois pour demander qu'on questionne la place de la publicité dans l'espace public de la capitale, parce que le contrat en fait entre la région de Bruxelles et JCDECO qui est la multinationale qui a quasi le monopole d'affichage dans l'espace public, arrive à son terme en 2024. Et donc c'est un contrat qui dure 15 ans, donc on n'a pas souvent l'occasion de le faire. De questionner ça, et donc on essaye de vraiment saisir cette opportunité pour questionner, mettre en débat, politiser en fait la place de la pub dans l'espace public.
Et est-ce que dans cette pétition il y a des revendications un peu claires de ce qu'il faudrait faire de la place de la publicité, ou c'est vraiment juste simplement interpeller pour questionner de manière large?
Alors nous ce qu'on essaie de faire d'abord c'est effectivement politiser la question, mettre en débat, et une fois qu'on peut avoir cet espace de débat, nous on trouve légitime de diminuer la place de la publicité, en tout cas de la publicité commerciale et marchande dans nos rues. On est légitime de se questionner sur cette publicité-là, et c'est d'abord ça qu'on cherche à mettre en avant. Et puis si au cours du débat, une diminution drastique ou voire une interdiction de la publicité dans certains espaces, si cette interdiction elle sort du débat, ben, on le soutiendra. Mais déjà, le premier pas, je dirais, c'est de pouvoir permettre un débat, un questionnement sur cette question qui, pour l'instant, n'est absolument pas considérée comme pouvant faire partie du champ démocratique.
Ok. Et est-ce qu'entre Liège, Bruxelles, Namur, vous avez des actions qui sont coordonnées à l'échelle nationale ?
Oui, bien sûr. La dernière en date, par exemple, c'était un soutien aux travailleurs et travailleuses de Deleuze. Donc voilà. Et plus largement, on fait partie d'un réseau international d'anti-pub. Donc on a des contacts avec, par exemple, Résistance à l'agression publicitaire en France, voilà, d'autres collectifs. Et là, dans d'autres pays, il y a des moyens, il y a des personnes qui sont vraiment salariées, des équivalents temps plein, qui travaillent sur ce sujet. Souvent, en fait, la thématique de la publicité, elle est sous-estimée, je trouve. Mais si on prend la lorgnette de l'argent, je trouve que c'est un bon indicateur. Il faut savoir que dans le monde, il y a plus ou moins 500 milliards de dollars qui sont dépensés chaque année pour la publicité. Donc ça montre à quel point c'est un secteur important.
Ok, et donc à l'échelle internationale, c'est Subvertiser International, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Il y a qui derrière ?
Alors, donc c'est un réseau international qui est porté essentiellement par une association française, la RAP, la Résistance à l'agression publicitaire, et des Anglais. De Brandalism et Subvert the City. Mais l'idée, c'est vraiment de communaliser, de mutualiser des ressources, des argumentaires, mais aussi des moyens d'action et de se rencontrer entre militants anti-pub. Donc là, il y a eu deux ou trois l'année passée, c'était la troisième édition, je crois, des rencontres internationales de la publicité à Amsterdam, où on était présents et on peut échanger sur nos pratiques de lutte, sur les argumentaires effectivement qu'on peut mettre en avant. On voit qu'il y a des différences entre les pays, mais même entre les villes. C'est assez chouette de voir qu'il y a une émulation autour de ça. Et on se nourrit évidemment énormément des expériences de chacun et de chacune.
Oui, donc il y a des actions qui sont coordonnées au niveau international. C'est quoi l'impact qu'ont ces actions quand elles sont réalisées et quand il y a des actes militants qui sont faits contre la publicité ? C'est quoi l'impact que vous espérez avoir en fait ?
C'est difficile de mesurer l'impact d'actions anti-pub. Enfin, je pense que le cas de Liège en fait, est assez parlant à ce propos-là. Donc, comme je le disais, généralement, c'est les communes, les municipalités qui ont des contrats avec des annonceurs. C'est des contrats super longs. En Belgique, c'est 15 ans en moyenne. Et donc à Liège, le contrat est arrivé à échéance en 2017, moment où des habitants et des habitantes ont dit « ben là, on veut faire de ce moment un moment où on refuse la pub dans nos rues ». Il y a eu pas mal d'actions, des actions directes et également des actions légales, comme je disais, des interpellations, une pétition. Mais il y a eu des détournements en rue, il y a eu une exposition d'artistes locaux dans les rues de Liège pour montrer qu'à la place de la publicité marchande, on peut mettre d'autres choses. Alors, spoiler alerte, le bourgmestre a resigné quelques semaines avant le dépôt de la pétition le contrat avec JC Déco. Mais on voit que c'est devenu une question politique quoi, à Liège et qu'ils ne peuvent plus faire n'importe quoi, que c'est plus le Far West. Il reste des chantiers sur lesquels on doit travailler, mais c'est devenu une question politique. Les gens se sentent légitimes justement d'aller questionner, de dire en fait j'ai pas envie que dans le parc où je vais promener mes enfants ou le matin quand je vais à l'école ou quand je rentre du boulot, il y ait un message qui me dit si t'as pas telle voiture, si tu manges pas telle chose, t'es une merde ou t'as pas le droit d'exister. Et donc ça c'est peut-être le premier indicateur de mesurer, enfin qu'on peut mesurer l'impact de notre lutte. Maintenant, il y a des villes où ils ont décidé de refuser la publicité, donc on voit que ça peut devenir une possibilité. Quoi.
Ok. Oui, tu parlais aussi de détourner en fait certaines publicités. Est-ce que la lutte anti-pub, c'est aussi un espace de convergence de certaines luttes ?
Oui, bien sûr. Il y a la diversité des tactiques. Donc, il y a plusieurs moyens d'agir. On peut simplement libérer l'espace de la publicité, mais on peut aussi utiliser cet espace comme moyen d'expression pour d'autres collectifs. Et donc ce sont des choses qui sont faites régulièrement. Bah, j'en prenais l'exemple de Boycott Deleuze, mais lors de bavures policières aussi, il y a eu des messages qui ont été affichés.
Justice pour Maouda, ouais, on a fait voilà. Une grosse campagne il y a deux ans, des campagnes de justice climatique.
Si on prend aussi une autre lutte importante dans le bassin liégeois, c'est Stop Alibaba. Donc, il y a aussi des détournements publicitaires qui ont été faits pour sensibiliser sur l'effet néfaste du développement de l'aéroport. Donc voilà.
Et donc c'est clair que effectivement, enfin, ça fait partie d'un des pans de ce qu'on essaie de travailler, c'est-à-dire de l'information ou des messages dans les rues, il y en a toujours eu. Aujourd'hui, on remarque que les messages, ils deviennent essentiellement ou ils tendent à devenir uniquement commerciaux. Et donc nous, on cherche à montrer des messages qu'on trouve plus légitimes, notamment de personnes qui se mettent en lutte, qui questionnent certains systèmes de domination autour d'eux ou autour d'elles. Et donc on propose des formations, mais aussi on peut mettre en place des campagnes d'affichage pour des collectifs ou des personnes qui, à un moment, se disent ben, « je peux utiliser dans ma lutte l'antipub comme un moyen d'action ». Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler.
Et justement, tu disais que tu parlais de messages véhiculés par la pub. Là, je me tourne un peu vers Negawatt aussi. Est-ce que vous remarquez aussi de votre côté, donc, dans votre action, ce message véhiculé par la pub, ou est-il néfaste, est-il pas néfaste, est-ce qu'il vous touche ou pas spécialement ?
Bah, je pense que très clairement, un des maîtres mots de Negawatt, c'est sobriété. Sobriété dans tous les sens, sobriété énergétique, mais aussi ça passe par le fait de consommer moins à tout niveau. Et donc c'est vrai que... La publicité est pour ça, un excellent vecteur pour encourager les gens à consommer. Et donc, forcément, pour nous, c'est terriblement néfaste quoi, d'avoir justement cet encouragement à avoir le dernier objet à la mode. On parlait de voiture il y a un instant, mais c'est aussi des destinations de voyage qui sont hyper tentantes et tout ça. Donc ça, c'est aussi, ça va à l'encontre de notre souhait de sobriété générale.
Et ça, Oscar, tu parlais de convergence des luttes. Donc c'est complètement ça ici, c'est deux luttes différentes, mais qui convergent exactement vers la même finalité, je pense.
Ouais, mais justement, là, tu parlais des panneaux JC Déco dans les abribus qui consomment autant d'énergie que 4,5 ménages. Vous, ça vous évoque quoi
Bah, ça fait partie de ces consommations qui ne sont pas indispensables. C'est clair que dans un monde fini, dans un monde où on ne peut pas surconsommer, on devrait vraiment se limiter à ce qui est essentiel, ce dont on ne peut pas se passer. Et c'est sûr que les panneaux publicitaires font partie de ces choses qu'on devrait éliminer parce qu'elles ne sont pas indispensables.
Et même plus que pas indispensables, elles sont contre-productives du coup parce qu'elles poussent à consommer encore plus. Quoi. Ça a été ou pas ?
Oui. Si je peux donner un exemple pour ça, par exemple, il faut savoir que nos smartphones, actuellement, la première cause pour laquelle on remplace un smartphone, c'est pas parce qu'il tombe en panne, c'est juste l'obsolescence marketing. C'est-à-dire que la majorité des smartphones sont remplacés parce que simplement, bah, il est plus à la page, quoi. Et donc ça, c'est l'effet de la publicité qui induit ça.
J'avais une petite question, entre autres pour Negawatt, pour rebondir là-dessus sur la sobriété. J'ai cru comprendre que vous aviez été interrogé quelques personnes préalablement. Et donc, qu'est-ce que c'est exactement la sobriété ? Est-ce que les gens savent ce que c'est la sobriété ? Est-ce que tout le monde y adhère actuellement ? Ou est-ce que ça en est voilà.
Alors, c'est sûr qu'ici, on est face à un public qui n'est pas représentatif de l'ensemble de la population. Et donc, oui, on est tombé sur des gens qui, effectivement, à l'évocation de la transition énergétique, parlent d'emblée de sobriété. Et donc, nous, ce qu'il y a derrière le mot sobriété, c'est clairement la diminution de nos besoins en énergie avant de passer à l'efficacité des systèmes. Et puis au renouvelable pour couvrir ce qui reste à produire quand même.
Et je me demandais, parce que vous disiez que vous élaboriez des scénarios, est-ce que ces scénarios, enfin je me dis, d'un point de vue gouvernemental ici, est-ce que les scénarios élaborés par l'Europe ou par la Belgique correspondent aux scénarios que vous élaborez ? Est-ce que ça s'en éloigne totalement ? Voilà.
Pour l'instant, il n'y a pas trop de scénarios qui étudient la sobriété, donc la réduction de la demande. Et nous, on essaye justement de questionner ça parce que c'est poser la question différemment et ça rend techniquement les choses plus faciles. C'est juste que politiquement, on doit s'organiser autrement pour structurer nos vies, parce que l'énergie nous permet de structurer en fait nos actions et notre rapport à l'environnement et aux autres. Et donc en fait, un scénario sobre, c'est aussi un scénario politique où on vit différemment entre nous, quoi. En communauté, plus locale, les choses, ce genre de choses.
Et oui, voilà, justement, est-ce que les scénarios de sobriété, la sobriété dont comme vous la définissez, est-ce que c'est plutôt d'un point de vue individuel ou collectif qu'on doit y réfléchir, qu'on doit agir?
Ben justement, je pense que le but du Négawatt, c'est de montrer que la sobriété, c'est aussi collectif. Enfin, c'est surtout collectif, en fait. Faut pas mettre toute la responsabilité sur l'individu, parce que si on peut pas être sobre aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on manque cette structure collective qui permet de faire les déplacements à vélo, de pas dépendre de la voiture, de pouvoir faire des vacances locales et des choses comme ça. Et en fait, c'est en s'organisant ensemble que la sobriété devient joyeuse, quoi. Tout seul dans son coin, ça, c'est pas très chouette.
Si je peux rajouter juste une petite chose, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens en fait qui agissent déjà, qui effectivement prennent leur vélo plus souvent, mangent local, font des vacances plus écologiques, etc. Et en fait, je donne souvent cet exemple très simple, mais quand on a fait 40 km toute la journée à vélo sous une pluie battante et qu'on regarde qu'il y a 4 avions dans le ciel, voilà, ça rend les 40 km à vélo pas très intéressant finalement. Donc, une fois qu'on a atteint sa limite individuelle, il faut qu'il y ait derrière aussi des actions qui soient politiques, qui soient portées vraiment par le politique.
Alors, on peut peut-être rebondir sur ces avancées politiques. Est-ce qu'en matière d'antipub, il y a eu des décisions politiques qui ont été dans le sens d'un espace visuel un peu moins pollué?
Alors, donc, comme je le disais, il y a l'exemple qui est un peu la mecque de l'antipub pour nous, c'est Grenoble, où ils ont vraiment acté une diminution de la publicité. Et ils ont décidé de compenser en fait les revenus publicitaires par d'autres sources de revenus publics, notamment des diminutions de dépenses en protocole, des diminutions des salaires des conseillers communaux. C'est un peu cet exemple-là. Mais à nouveau, je reviens sur l'exemple liégeois parce que je le trouve assez intéressant. Ils ont re-signé le contrat. Mais c'est devenu une question politique et donc ils ne peuvent plus faire n'importe quoi. Il n'y a plus de permis d'urbanisme qui sont délivrés pour des nouveaux billboards. Donc les billboards, c'est les énormes panneaux qui font 6 mètres sur 3 ou 4 mètres sur 2, ça dépend un peu, oui. Pour lesquels il faut un permis d'urbanisme.
Mais ici, en fait, il y a effectivement cette conscience, mais le problème, c'est que il n'y a pas vraiment de choix structurel. Donc de temps en temps, cette année par exemple, on est parvenu à ce que un véhicule qui était installé dans un piétonnier soit retiré, c'était un véhicule promotionnel, voilà, qui soit retiré de cet espace piétonnier, mais c'est une décision, à la bonne volonté du bourgmestre à ce moment-là. Mais on a mené une action l'année passée pour demander d'interdire la publicité autour des écoles. C'est quelque chose qui n'a pas été suivi. Le bourgmestre a été interpellé au conseil communal. Il a dit qu'il reviendrait vers Liège sans pub. Mais on attend toujours son retour. Il y a beaucoup de promesses, de paroles, mais les actes manquent encore, surtout de manière, comme je disais, structurelle. Comme on voit en France, Jonas ici parlait de Grenoble, mais il y a Nantes, il y a Lyon, ce sont des villes qui prennent, il y a plusieurs villes en France qui prennent des décisions vraiment conséquentes contre la publicité.
Et si on se balade un peu à Bruxelles ou à Liège, on peut voir des panneaux publicitaires qui sont dégommés par certaines personnes Il y a des panneaux publicitaires qui ont été troués avec des perceuses. On sent qu'il y a de la colère derrière aussi. Est-ce que s'attaquer directement à ces panneaux-là, vous considérez que ça sert la lutte aussi?
Alors, Xavier l'a un peu dit tout à l'heure, mais il y a vraiment cette idée de respect ou même de défense de la diversité des tactiques. Et on voit, je reviens sur l'exemple liégeois parce que c'est un peu le dernier, mais on voit que c'est quand il y a eu différents types de moyens d'action. Des moyens d'action, comme je disais, légaux, des interpellations, des pétitions, mais aussi des actions directes et parfois des actions de sabotage, de destruction de panneaux. C'est quand il y a eu ce panorama d'actions différentes qu'il y a eu un semblant de rapport de force, ou en tout cas on a pu un peu diminuer la position de faiblesse dans laquelle on est, où on a pu avoir une discussion. Quoi. On est tellement, pour l'instant, il y a tellement un non-dit et une acceptation de la publicité dans l'espace public que certaines actions radicales permettent en fait d'un peu contrebalancer ça. Maintenant, ça comporte des risques. On essaie d'informer sur ces risques au maximum. Mais ça fait partie du panel et je pense qu'il faut pouvoir entendre et défendre aussi que c'est une colère de pas mal de personnes de voir des messages violents qui te matraquent toute la journée. On voit entre 1200 et 2200 messages publicitaires par jour, c'est ce que certaines études démontrent. Et donc à un moment, tu pètes un plomb et c'est normal d'aller péter le panneau à côté de chez toi.
Est-ce que c'est vraiment normal? Si je me fais l'avocat du diable, évidemment.
Tout dépend de ce qu'on appelle la normalité, quoi. Mais je veux dire, les panneaux, la publicité dans l'espace public, c'est la seule qu'on ne peut pas refuser. Nous, on défend quand même une forme de droit à la réception. Quand tu regardes ta télé, tu peux zapper. Quand tu surfes sur Internet ou autre, tu peux mettre adblock. Dans la rue, à part marcher les yeux fermés et prendre des poteaux, c'est quand même pas facile. Donc y a des gens qui en ont marre, ils mettent une feuille, ils la collent simplement sur la vitre, d'autres ils enlèvent la publicité dans l'espace pub, et d'autres, après avoir enlevé 15 pubs et qui voient que chaque semaine il y en a une nouvelle, ils prennent un marteau, ils prennent une foreuse ou ils prennent une balle de pétanque, enfin je sais pas, il y a plein de créativité à ce niveau-là pour un moment dire stop, quoi.
D'ailleurs, ça m'a fait penser à une des actions dont vous m'avez parlé hier, justement. Donc, on parlait de la consommation énergétique des panneaux publicitaires. Et vous allez expliquer mieux que moi ce que vous avez déjà fait avec l'électricité des panneaux publicitaires à Liège, entre autres, je pense.
Oui, donc y a eu un collectif Passe à la pub qui en avait marre de voir ce gaspillage et qui a décidé de détourner l'électricité destinée à un panneau pour alimenter une taque électrique. Et donc ils ont cuisiné des pâtes. Voilà, et quelques temps plus tard, un autre collectif a décidé de cuisiner de la soupe, donc sur le même principe, voilà.
Et c'est peut-être juste aussi, pour rebondir un peu sur la sobriété, enfin, je trouve que la crise énergétique qu'on a traversée, ou de laquelle on est plus ou moins en train de sortir, a vraiment posé la question de qu'est-ce qu'on garde comme consommation d'énergie, quel est ce qu'on garde comme nécessaire. Et donc en France, il y a un message qui a été affiché, c'était « on me dit de baisser 3 degrés mon chauffage pour que cette pub reste allumée ». Donc il s'agit vraiment aussi de poser à un moment des choix, je pense, en termes de sobriété.
C'est clair, quand j'entends ça, je trouve ça génial parce que c'est justement interroger quoi, de manière visuelle, dire mais on la met où cette énergie, on l'utilise comment, donc je trouve ça génial.
Et donc c'est vrai que, oui, quand on parlait de qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, quand on est dans ce moment où des gens peinent à payer leurs factures d'électricité, où les prix flambent, avoir des actions qui sont au-delà de la légalité, ça a le soutien du grand public parce que ça parle à tout le monde. Voilà. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre entre... un juste équilibre.
Moi, je vous propose de s'arrêter là pour le moment. On se reprend vers une petite pause musicale. Nous allons écouter... Je vous avoue, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un peu honteux. C'est Twi. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas comment ça se prononce. Enfin bref, c'est un artiste qui se produira tout à l'heure à Esperanza vers 17h. On nous écoute Frontera Nada.
José, tu veux jouer à la vache? On va jouer à la vache.
يا ولاد الحومه في الغربه كاين في ما مشينا نجيبوها انا دم البحر خرجوا رجاله بعقليه تشكي ورا اجري مرويكو يا خوا خوا في باري ومالاقا يلحسوا لا مراقا Como hablas con franceses, como sabes que de Marruecos es donde tú creces. Amor tengo al estrecho, también a los arrega. Va bene, lo malo paga. Estamos donde estamos, no hace falta que te diga. Buscándonos la vida sin que a nadie le mendiga. Y sueno yo persigo, aunque nunca a mí me sobra. Amor por la motora, trabajadores con obra. Se fuga nunca pena que está, corría hasta chancleta. Mi argelino es coleta, se fuga la moto. En cárcel mando fotos, tranquilo y sensato. Amor por lo de nosotros, también lo siento.
Toda la vida al vacancia, toda la vida, toda la vida al vacancia, 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 toda la vida al vac سي 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 ولاد الحومه في الغربه اي في ما مشي نجيبوها طير انا دم البحر خرجوا رجالا طير انا بعقليه تشكي برا
Alors, on va peut-être continuer en se tournant vers Negawatt et en se posant la question de ces scénarios, justement. C'est quoi un peu les grands axes sur lesquels vous travaillez avec Negawatt ?
Mais en fait, avec Negawatt, on essaye de répondre aux problèmes de manière différente. Donc, on part de la demande et on se questionne sur quelle est la bonne part de cette demande, comment on utilise l'énergie. Parce que habituellement, les scénarios de transition énergétique, on se dit qu'on va avoir plus ou moins la même demande, ça va un peu augmenter. Et nous, on se dit non, en fait, où est-ce qu'on veut utiliser l'énergie ? Combien de kilomètres on va parcourir ? Comment on va se chauffer ? Combien de mètres carrés on va chauffer ? Est-ce qu'on chauffe toujours aussi fort ? Et après, une fois qu'on a répondu à ces questions-là, là, avec des modèles, on pose la question de avec quelle technique ou quelle technologie on fait ça. Mais donc, c'est vraiment répondre à la question dans l'autre sens, et ça nous paraît plus sensé de faire dans ce sens-là, parce que ça permet de designer un système qui est techniquement aussi plus simple, il est juste politiquement plus engageant. Et donc, les grands axes, c'est... de la consommation énergétique, c'est le transport, le chauffage, la consommation indirecte de biens et l'électricité qu'on utilise dans les logements.
Ok, et donc il y a déjà des scénarios à l'échelle européenne qui ont été étudiés ?
Oui, en fait Negawatt, c'est une association qui existe déjà depuis un petit temps en France et ils ont lancé récemment un travail qui s'appelle Clever où ils étudient des scénarios de transition énergétique sobre pour tous les pays européens. Et c'est tout récent et c'est disponible en ligne.
Ok. Moi j'avais une petite question pour vous, les militants anti-pub, puisque vous baignez dedans. Est-ce que vous avez développé une sorte d'hypervigilance à la publicité et c'est quoi votre rapport quotidien à la pub ?
Personnellement, j'ai le plus de blocage possible sur mes appareils parce que ça, évidemment, c'est sur les écrans, c'est assez systématisé et assez envahissant, quoi. Puis c'est sûr que dès qu'on se promène en ville ou quoi, ça c'est frappant et en fait c'est vraiment fait pour qu'on s'en rende même plus compte, quoi. Il y a des nouveaux panneaux qui fleurissent et puis à force de passer à côté, on les intègre en fait dans notre carte mentale un peu des lieux, quoi, et on trouve ça normal. Et je pense que ça reste intéressant de questionner justement. Enfin, moi ce qui me frappe fort en ce moment, c'est les vitrines de magasins qui comportent maintenant toutes des énormes écrans. Qui te saute aux yeux, quoi. Et dans les restaurants aussi, certains restaurants, t'as une télé qui passe en boucle des pubs pour le restaurant en question et choses comme ça. Moi, je trouve ça très, très intrusif, quoi, très dérangeant. C'est trop, quoi. On est tout le temps sollicité, en fait.
Ouais, donc vous êtes révolté quand vous voyez le moindre panneau publicitaire. Du coup, vous devez être très révolté parce qu'il y en a beaucoup.
Mais c'est clair, enfin... Moi, celle-là aussi, dans l'anti-pub ou les actions très concrètes, je trouve que c'est vraiment... ça peut être un exutoire, quoi. Un moment de se dire, on est face à des trucs qui sont vraiment tellement énormes, les enjeux de transition énergétique, les enjeux de justice sociale qui peuvent parfois nous dépasser. Et en fait, ouvrir un panneau, enlever la pub ou aller coller un message qu'on trouve plus sympa dessus, c'est hyper concret, ça se fait au coin de notre rue et un peu tout le monde peut le faire, quoi. Durant les App Games, qui est une compétition, c'est un peu les Jeux Olympiques de l'anti-pub à Bruxelles, avec différentes catégories. Donc il y a le plus grand panneau détourné, le plus grand nombre de panneaux détournés, la plus belle sculpture, enfin voilà, je ne vais pas faire la liste, mais il y a un collectif qui organise ça. Et l'année passée, il y a une famille qui, tous les soirs, entre l'école et le souper, allait avec les enfants retirer la pub, et les enfants ne pouvaient pas avoir leur dessert ou je ne sais pas quoi s'ils étaient partis dans la pub. Quoi. Mais c'est pour dire que c'est vraiment très accessible et ça permet justement de un peu sortir de cet état de léthargie ou de, enfin, je sais pas, on nous met dans une situation d'incapacité où on nous balance des trucs constamment, on sait pas trop quoi faire. En fait, si c'est facile, tu prends un bout de scotch, un papier où tu écris salut ou bonne journée et tu vas le coller au coin de ta rue. Puis si tu veux faire plus, tu fais plus, mais il y a plein de choses qui sont possibles.
Et, oui, on ne se rend pas toujours compte en fait de la violence de la publicité. Quand on voit des badges de 36 mètres carrés avec des grosses voitures électriques qui nous disent que pour sauver la planète, il faut qu'on achète ça. Et avec ces bagnoles qui coûtent 60, 70, jusqu'à 120 000 euros facilement, c'est pas accessible au commun des mortels. Et donc on parle de justice sociale. Clairement, ces publicités, elles nous renvoient l'image que, on est des merdes, quoi, en fait. Hein. Tu sais pas t'acheter cette bagnole-là, tu vas polluer avec ton vieux diesel, etc. Donc c'est très violent quand on reçoit ces messages-là. Et donc je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, quelle est la légitimité d'enlever ces pubs? Clairement, c'est très légitime, quoi.
Oui, et en plus de ça, en plus de cette violence dont tu viens de parler, de responsabilisation, où je ne sais pas comment la définir, mais des mots dessus, il y a aussi cette violence, moi je trouve, j'ai envie de dire, énergétique. Maintenant, je me tourne un peu vers Negawatt. Moi, je me pose la question de savoir si ces 4x4 électriques sont vraiment une manière de sauver la planète ou pas.
C'est sûr que on en revient à toujours cette question de sobriété et que donc on devrait plutôt aller vers des voitures plus petites, en moins grande quantité avant tout. Et donc c'est clair que faire la publicité pour et donner envie aux gens d'avoir le dernier gros 4x4 par exemple, grosse voiture électrique, c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète, quoi, très clairement.
Et Liège sans pub, enfin les villes sans pub viennent de soulever la thématique de la justice sociale. Est-ce que c'est une thématique que vous avez à cœur aussi chez Negawatt?
Oui, c'est effectivement un de nos maîtres mots, quoi. Tout simplement parce que l'énergie, non seulement elle est limitée, mais en plus pour le moment elle est terriblement mal répartie. Et donc ce sont les gens qui ont le plus de moyens qui se permettent de consommer et de consommer de manière complètement outrageuse pour certains. Et par contre, des ménages qui sont beaucoup plus précarisés et qui eux n'ont même pas l'énergie suffisante pour, je dirais, un confort, j'ai envie de dire un confort sobre, mais donc les besoins nécessaires, quoi, hein, et qui peinent à payer une facture d'énergie qui leur servirait simplement à se chauffer correctement et à faire à manger, etc. Enfin, les besoins vraiment énergétiques.
Et donc c'est quelque chose que vous prenez en compte dans les scénarios, que vous arrivez à prendre en compte dans les scénarios que vous élaborez, de justice sociale
C'est une volonté, très clairement. Et le fait de vouloir mettre aussi, puisque le projet de Negawatt, c'est à la fois d'élaborer ces scénarios, mais également de les mettre en débat citoyen. Et c'est ça aussi la volonté d'aller vers les gens, de pouvoir rencontrer aussi. Je pense que ça va être très intéressant, en fait, ces débats qu'on va organiser, parce que parfois les mesures qui sont prises avec une volonté environnementale derrière, en fait, touchent un public qui est déjà précarisé. Enfin, je pense à cette question de voiture, par exemple. Il est évident qu'actuellement, les gens qui sont proches de leur lieu de travail, qui vivent proches de leur lieu de travail, ce sont des gens qui... les loyers ou les prix des maisons sont en général beaucoup plus élevés aux endroits où il y a du travail. Et donc, finalement, ce sont les gens qui sont les plus précarisés, qui sont les plus loin de leur lieu de travail, et donc qui ont recours à la voiture, effectivement. Et donc, surtaxer la voiture, par exemple, ça va à l'encontre, justement, de cette justice sociale. C'est un exemple parmi d'autres, mais donc ce sera intéressant de se nourrir aussi de ce que on pourra recevoir des gens qui vont participer au débat pour nous dire mais attention, parce que une telle mesure, en fait, ça irait à l'encontre de notre survie, finalement, ou des choses pareilles, quoi.
Et donc si j'ai bien compris, vos animations et les scénarios vous mettez en place, vous souhaitez les présenter à tout public, alors un public très élargi, s'éloigner, oui, un peu de la bulle de d'Esperanza.
Exactement, oui, c'est sûr. Et bon, ce qu'on constate actuellement, c'est que quand on essaie d'organiser, là, je parle plus de mon travail, où j'ai parfois organisé des séances d'information sur l'énergie, ben, les gens qui viennent, en général, c'est déjà des gens qui sont sensibles à la cause, ou qui connaissent déjà un petit peu le monde de l'énergie, etc. Et notre volonté à Negawatt, c'est vraiment d'aller chercher un public qui soit représentatif de la population belge, et donc vraiment essayer de toucher un maximum de milieux.
Je profite pour rebondir là-dessus avec vous, Liège et Bruxelles sans pub. Est-ce que vous, les publics que vous rencontrez, les gens avec qui vous discutez, est-ce que c'est toujours bien perçu les actions sans pub, justement ? Est-ce que tout le monde est sensibilisé de la même manière par rapport à ça, à l'impact que la pub peut avoir ? Ou est-ce qu'à nouveau, il y a des publics beaucoup plus avertis que d'autres et,
Ben, en général, je trouve que c'est toujours bien accepté, mais les gens sous-estiment le pouvoir de la publicité, très largement. Et on se dit souvent, oui, moi, en tant qu'individu, je regarde pas, je suis pas touché, mais on ne voit pas que le cœur de la publicité, elle transforme la collectivité, en fait. Voilà.
Et puis... Enfin, en termes de justice sociale, moi je pense qu'il y a vraiment aussi un enjeu sur les messages qui sont véhiculés. Donc on disait, c'est des messages violents, notamment parce qu'ils poussent à une consommation énorme et qui te font comprendre que tu ne peux exister que à travers la consommation. Mais les corps et les personnes qui sont présentées dans les publicités sont aussi des corps ultra normés. C'est essentiellement des corps jeunes, blancs, sportifs, très sexualisés, surtout pour les femmes. Et donc aller à l'encontre de ça, pouvoir questionner en fait la représentation qu'il y a dans nos espaces publics, dire en fait ça représente qu'une toute petite partie de la population, c'est aller contre cette violence là, aller vers plus de justice sociale. Et puis pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, permettre et défendre l'usage de supports publicitaires pour promouvoir d'autres luttes, c'est également défendre une justice sociale plus large, en permettant à des collectifs antiracistes, à des collectifs féministes, à des collectifs, ben, récemment c'était les Deleuziens, les Deleuziennes, des syndicats, d'afficher des messages de soutien à des travailleurs ou des travailleuses, ça permet de diffuser des luttes qui tendent vers une justice sociale plus importante.
Et si je peux rebondir, en fait ce que je trouve intéressant avec la pub et que nous on essaie de faire aussi à Negawatt, c'est redéfinir les imaginaires de faire société. Là la pub c'est clairement un imaginaire de consommation, de vivre par ce qu'on achète et ce qu'on dépense. Et à Negawatt, ce qui est très riche et très challengeant aussi, c'est refondre l'imaginaire de l'énergie aujourd'hui. La transition énergétique, c'est pas juste mettre des éoliennes et des panneaux solaires. C'est vraiment repenser à comment on s'organise pour consommer mieux et consommer moins. Et il y a tout un travail d'imaginaire à faire là-dessus, sur qu'est-ce qui est utile pour nous, qu'est-ce qui nous rend heureux. Et bah, c'est un peu philosophique dans ce sens-là aussi. Et c'est pour ça qu'en final, lutter contre la pub, c'est juste... le plus logique et la première étape, mais c'est vraiment une refonte de tout la critique du monde de la surconsommation, quoi.
Oui, et dans les publicités, parce que là tu parles en fait du fond de la publicité et de ce qu'on y voit. En fait, de temps en temps, on se dit que voilà, les générations évoluent, etc. Et puis on recroise un corps hyper sexualisé sur une publicité et on se rappelle qu'en fait. Ça marche pas forcément. C'est quoi vos moyens d'action sur le fond de la publicité ?
Alors c'est assez compliqué. Enfin, il y a d'abord c'est essentiellement essayer d'initier un débat et de questionner les représentations qu'il y a dans l'espace public, et que ce débat à un moment débouche sur des législations qui vont encadrer ça. Au niveau des produits qui sont promus, il y a eu le cas du tabac dans les années 80 où on a dit ok, le tabac c'est néfaste, on fait plus de publicité dessus. Et maintenant il y a vraiment des nouvelles législations, ou en tout cas des collectifs, des associations qui poussent pour que d'autres produits soient interdits, notamment des produits fossiles. Il y a un projet de loi qui est déposé mais qui reste en repos au Parlement fédéral pour interdire les publicités pour les énergies fossiles. Donc c'est pour les voitures thermiques, les compagnies aériennes et les compagnies productrices d'énergie, Total et autres. Et puis sur le contenu offensant, Malheureusement, pour l'instant, c'est uniquement de l'autorégulation du secteur. Et donc, le secteur, à un moment, il est un comité d'éthique publicitaire qui ne fonctionne pas, parce qu'il fonctionne a posteriori. Et donc, les messages sont quand même dans la rue pendant 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, une fois que les pubs sont retirées, la plainte a enfin pu être traitée. Et le mal a été fait, mais ils auront peut-être une sanction ou ils auront une remontrance. Donc travailler là-dessus, ce serait assez intéressant. Maintenant, nous, on manque un peu de moyens, enfin, on reste des bénévoles. C'est un chantier à fond qui mérite dans lequel on doit se plonger, quoi.
Et tu parles du secte. Oh, pardon, vas-y.
Oui, je voudrais quand même apporter un petit bémol par rapport à ce que Jonas dit. On voit par exemple, il y a. La volonté d'interdire les pubs pour les énergies fossiles, donc on se dit ah c'est une bonne idée, etc. Mais je reprends l'exemple des voitures. En fait, le secteur automobile, si on regarde les publicités, c'est déjà terminé. Toutes les publicités pour les voitures, ce sont des voitures électriques. Mais qu'on ait des publicités pour des grosses voitures thermiques ou électriques, ça ne change pas grand chose. Voilà, la voiture de 1,8 tonne qui est électrique, c'est pas ça qu'on veut non plus. Donc voilà, c'est parfois sous couvert de bonne volonté, il y a parfois des fausses bonnes idées, je trouve.
C'est un peu exactement ce qu'on dit avec Negawatt, c'est que c'est pas juste une question de technique, quoi. C'est pas on va prendre exactement le même système et on va faire différemment avec des technologies propres. C'est pas, pour nous, c'est pas la bonne manière. Et c'est ça qu'on essaie d'apporter dans le débat public ici en Belgique, quoi.
Et puis il y a vraiment aussi ce truc de, enfin, les voitures c'est l'exemple typique, mais en fait à travers la publicité tu construis une image de marque aussi, et donc tu peux continuer à vendre 95% de voitures thermiques ultra polluantes, mais si tout le monde pense, parce que tu matraques les rues, que tu vends que des voitures électriques qui sont pas une solution écologique, hein, tu vas être présenté comme une entreprise à la pointe. Et donc là il y a aussi des activistes, mais en Angleterre ils font pas mal ça, qui essayent de détricoter ou alors d'attaquer l'image de marque. Brandalism, ils le font beaucoup, ils reprennent des codes de la publicité et ils mettent en avant les violences, voire les crimes que certaines compagnies, notamment multinationales, peuvent perpétrer. Ils l'ont fait avec Shell beaucoup dernièrement, et les compagnies aériennes encore.
Mais je trouve que ce serait intéressant de faire une analyse en fait systématique de tous les affichages et de voir un petit peu quel est le modèle qui est véhiculé là derrière, parce que bien souvent qu'est-ce qu'on va voir, on va voir par exemple, enfin je pense à des exemples comme ça qui me viennent à l'esprit, c'est effectivement on parlait de la grosse voiture qui donne quand même un certain prestige, et puis on va voir aussi souvent dans les publicités des maisons quatre façades par exemple, la grande maison spacieuse, etc., la cuisine une cuisine quelconque, n'est-ce pas, mais elle va être très grande, très spacieuse, or on ferait mieux d'avoir des maisons qui sont plus petites et plus petites à chauffer, du coup aussi. Et ce sont tous ces modèles en fait qui sont. Ça serait intéressant, quoi, de voir quelle est l'image générale qui est véhiculée de la société idéale, parce que c'est ça en fait ce que les publicités véhiculent, c'est un peu ce vers quoi tout le monde devrait aller, quoi, ou devrait avoir envie d'aller. Voilà, on va dire ça comme ça. Je pense aussi à des destinations de voyage aussi. Si on faisait la promotion plutôt de notre belle Ardenne à vélo, c'est sûr que ça polluerait moins que la belle plage avec les cocos. Quoi.
Et donc c'est là je trouve intéressant dans les luttes anti-pub, c'est que il y a un lieu subversif énorme et un pouvoir créateur de imaginer autre chose et donc de donner de la place à l'art et à imaginer des choses différentes à afficher pour que ce soit partagé et que ça soit fédérateur de la nouvelle imaginaire, quoi. Et ça, enfin je me demande c'est une question que j'ai pour le collectif anti-pub, dans les contrats dans les villes genre à Grenoble, etc. Est-ce qu'ils ont des contrats avec des artistes ou c'est juste ils réduisent la place des pubs? Parce que du coup, quand je suis passé à Grenoble, c'est plutôt des. Ils mettent des messages de sensibilisation, des choses comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de création artistique derrière.
Alors, je ne connais pas le contrat à Grenoble, mais je peux parler des contrats en Belgique. Il est prévu dans les contrats avec JCDECO que des faces des affichages soient réservées à de l'affichage d'intérêt communal. Alors, dans l'intérêt communal, il y a essentiellement de la pub pour. Il y a beaucoup de pubs pour des institutions culturelles. Et donc, généralement, quand des activistes s'attaquent à la pub, ils laissent les informations culturelles. Maintenant, même là, je trouve que c'est questionnant, parce que c'est d'une part un moyen de légitimer la place de la publicité commerciale. JCDECO, ils sont très forts là-dedans. Ils arrivent chaque fois à légitimer la place de la pub. Regardez, on met une pub pour une voiture, mais derrière, souvent la face contre un mur ou que personne ne voit, on va mettre une pub pour la compagnie théâtrale. Et puis, les pubs culturelles qui sont mises en avant, ça reste très inégalitaire. Ça reste des grosses institutions. Donc à Bruxelles, c'est essentiellement la Monnaie, les musées royaux, mais peu de place en fait aux artistes locaux ou autres. Et donc là, il y a eu des tentatives de récupération de l'espace d'affichage par des artistes. Et il y a vraiment toute une partie de l'anti-pub qui est ultra créative, ultra artistique. C'est super riche, quoi.
Et alors aussi par rapport à ça, maintenant avec l'explosion des panneaux numériques, c'est que les publicités et les informations d'intérêt général sont mélangées. Donc c'est d'autant plus pervers parce qu'on passe d'une publicité et puis d'un coup on est sur une information. Et si on reprend l'exemple des enfants, où on a demandé à Liège l'interdiction des panneaux autour des écoles, en fait les enfants en bas âge sont incapables de différencier un message informatif d'une publicité. Et donc ces panneaux numériques représentent d'autant plus un danger pour le jeune public.
Tu parlais un peu de JC Déco, c'est vraiment le mastodonte de la publicité et pas que en Belgique. Est-ce que vous pouvez, pour nous faire un peu peur, nous faire le profil un peu de JC Déco ?
J'ai pas du tout les chiffres en tête.
Mais c'est vraiment une grosse multinationale, hein.
Ils ont quasi le monopole au niveau mondial de l'affichage dans les rues. Claire Chanel se partage une petite part du gâteau aussi, mais c'est essentiellement JC Déco. Il y avait des régies publicitaires publiques, notamment à la SNCB, mais elles ont été vendues au privé par la suite. Et JC Déco, pour un peu d'exploration, c'est un peu se flageller, mais c'est intéressant d'aller sur leur site, quoi. Ils montrent vraiment leur société idéale, ils proposent à leurs clients des panneaux ultra connectés où si tu passes avec ton téléphone à côté, avec le Bluetooth, ils savent définir ton profil et donc tu vas avoir des pubs en temps réel ultra ciblées sur les personnes. Ils proposent, mais je pense pas que ce soit autorisé en Belgique, mais bon, ça va peut-être le devenir, des panneaux avec des caméras intégrées pour pouvoir filmer le visage des passants et savoir un peu les réactions des gens, savoir si ta pub est efficace ou pas. Donc c'est le site internet de JC Déco, n'y allez pas trop, mais un petit tour de temps en temps, ça te permet de dire ok, il y a quand même des choses vers lesquelles on risque de tendre qui sont encore plus effroyables que celles qu'on connaît. Et puis moi, ce que je trouve quand même assez intéressant au niveau de JC Déco, c'est que c'est les spécialistes de, comme je le disais, de légitimer la place de la publicité dans l'espace public. C'est eux qui ont vraiment répandu le modèle de l'abribus classique qu'on connaît aujourd'hui. C'est un peu la mythologie de JC Déco. C'était le mec qui les parents avaient un magasin, il se dit ben je vais mettre une banquette et je vais financer ma banquette en fait en mettant l'affichage de mes parents, et puis il a répandu ça à l'échelle de la ville et puis c'est devenu gigantesque. Un autre moyen de légitimer la publicité, donc il y a les abribus, mais il y a aussi les vélos. Les vélos en libre service, donc à Paris c'est Vélib, c'est le modèle ultra répandu. À Bruxelles, les vélos, il y en a aussi à Namur. Et donc les vélos à Bruxelles sont mis dans les rues en échange d'affichage publicitaire. Et ce contrat, comme je le disais, il arrive à échéance l'année prochaine. Donc c'est un contrat sur 15 ans. Les vélos sont défectueux. On nous avait promis des vélos électriques. Ils sont arrivés, mais il faut se recharger avec une borne. Enfin, c'est l'enfer total. Et donc nous, on aimerait bien que 2024 soit l'occasion de dire bah, on veut un service public de vélos en libre-service performant. Et on veut aussi qu'il soit exempt de ce chantage à la publicité, de dire en fait, nos collectivités locales ou nos communes, elles sont obligées pour mettre en place des services de se vendre à des annonceurs qui mettent des vélos et puis à côté, ils mettent une pub pour un 4x4 SUV, quoi. Donc on aimerait bien faire de ce moment-là un grand moment de débat. C'est pourquoi on lance une pétition, comme je l'ai dit. Elle est disponible au stand au village des possibles, et puis on va faire un peu de com sur les réseaux sociaux. Il y a moyen de la signer en ligne, donc allez signer.
Ok, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cette jolie discussion. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez encore envie de rajouter ou des questions qui n'ont pas été posées et qui vous titillent ? Alors dans ce cas, peut-être qu'on peut faire un petit peu de publicité pour une artiste qui est en train de passer justement à la scène du jardin. C'est Blue Samu et on va mettre la chanson Sad Blue.